Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Sandra Régol, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, première question, Donald Trump a annoncé qu'il reconnaissait Jérusalem comme capitale d'Israël. Une décision dénoncée par de nombreux pays, évidemment par les Palestiniens. Plusieurs responsables politiques français estiment que cette décision risque d'embraser la région. Quelle est votre réaction à cette initiative du président américain ?
On en a été profondément choqués. On en a été profondément choqués parce que ce n'est pas la seule décision qui semble avoir l'objectif d'embraser un petit peu les relations entre les musulmans à travers le monde et les Américains ou d'autres peuples. Il y a quelques jours, la Cour suprême américaine a validé le fameux arrêté de Trump qui interdit de territoire américain 6 pays qui n'ont en commun qu'une seule chose, c'est-à-dire être des pays à majorité musulmane. Donc ça fait 2 actions qui nous semblent très très vindicatives à l'encontre des musulmans du monde entier. Par ailleurs, ça fait très longtemps qu'Europe Écologie Les Verts demande la reconnaissance de l'État de Palestine, ce qui nous semble être un premier pas pour la paix dans cette région. On a d'ailleurs un député européen, Pascal Durand, qui est interdit par l'État d'Israël de territoire, justement en raison de ses combats pour la reconnaissance de l'État palestinien. Donc c'est à de multiples titres pour nous une décision extrêmement dangereuse. On espère que la région ne va pas s'enflammer. Ça a l'air assez mal parti, si j'en crois les différentes déclarations qu'on a pu entendre des responsables politiques palestiniens. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Et puis beaucoup d'inquiétudes aussi pour ce que ça peut vouloir dire au niveau des relations internationales.
Cela vous semble aussi grave, par exemple, que l'intervention américaine en Irak ?
Alors, on ne peut pas mettre sur le même plan une décision symbolique et une intervention humaine armée. Mais en termes de répercussions, oui, c'est peut-être pas tout aussi grave, mais c'est extrêmement grave. La symbolique de cette décision, elle est quand même de dire que tout ce qui a été décidé dans le droit international ne compte pas aux yeux du gouvernement américain. Et elle consiste aussi à dire que tous les efforts de paix qui sont faits depuis des décennies dans la région, qui sont très difficiles, sont inutiles aussi. Donc ça fait deux très bonnes raisons de considérer que tout ceci n'a aucun sens et que c'est une décision extrêmement dangereuse pour l'avenir du monde. Mais Donald Trump, globalement, prend des décisions qui semblent extrêmement dangereuses pour l'avenir du monde, que ce soit dans sa montée guerrière d'opposition militaire, de confrontation militaire avec la Corée du Nord, ou que ce soit dans ses décisions pour reprendre les forages de gaz et de pétrole dans des zones protégées d'Amérique, ou encore quand il décide d'interdire le droit des peuples qui ont été chassés de leur terre par des ouragans ou par des catastrophes climatiques de résider sur le sol américain. Toutes ces décisions, c'est vraiment des décisions qui renferment l'Amérique sur elle-même, mais qui tendent aussi à monter l'opinion internationale et beaucoup de pays contre eux.
Sandra Régol, durant le quinquennat de François Hollande, députés et sénateurs avaient appelé à la reconnaissance de l'État palestinien par la France. Europe Écologie Les Verts est évidemment sur cette position. C'est une demande qui devrait être réactivée après l'initiative américaine.
Ah oui, d'ailleurs c'est notre première demande au président Emmanuel Macron, puisque il a trouvé que c'était regrettable. Nous on trouve que c'est un peu plus que regrettable.
Vous trouvez que sa réaction est trop modérée ?
Non, elle n'était pas trop modérée, elle était diplomatiquement calibrée et il a bien réagi. Il faut quand même célébrer les bonnes actions quand elles sont là. Il en a fait quelques-unes d'apaisement, dont celle-ci. Et puis, nous, ce qu'on lui rappelle, c'est que s'il veut vraiment mettre en cohésion ses paroles et ses actes, il faut agir pour la reconnaissance d'un État palestinien, pour qu'il y ait un premier élément rassurant pour les Palestiniens là-bas, puisque là, ce qu'on sent beaucoup, quand on écoute ce qui vient des régions de Palestine, c'est qu'il y a un sentiment d'inutilité du travail qui a été mené pour la paix et que ça se développe en une certaine lassitude qui pourrait dégénérer en violence.
Il va rencontrer Benjamin Netanyahou. Qu'est-ce qu'il doit lui dire au nom de la France, Emmanuel Macron ?
Alors, de notre point de vue, ce qu'il devrait lui dire, c'est que la moindre des choses, si Netanyahou veut vraiment continuer à dire qu'il est pour une politique de paix sur cette région du monde, c'est de reconnaître la Palestine comme un État.
Le Conseil français du culte musulman a protesté auprès de l'ambassadeur des États-Unis contre cette décision de Donald Trump, tout en souhaitant que le conflit au Proche-Orient ne soit pas importé en France. Le conflit israélo-palestinien, c'est un sujet particulièrement sensible en France.
Oui, c'est un sujet particulièrement sensible parce qu'on a des jeunes générations qui n'ont subi que les diverses oppressions qu'elles ressentent de la part de leurs aïeux, qu'ont subi leurs aïeux, qu'ont subi leurs proches, qu'ont subi leurs familles, qu'il s'agisse des familles israéliennes ou des familles palestiniennes, même si ce sont deux types d'oppression et de modes de vie complètement différents. Mais en tout cas, on a un sentiment d'injustice de part et d'autre qui peut se transmettre effectivement par les liens amicaux, par les liens familiaux ou par le sentiment d'appartenance jusqu'à chez nous. Or, notre devoir à nous, c'est de respecter les accords de paix, c'est de respecter le rêve qui était celui de la fin de la guerre et de permettre à chacun, chacune, de pouvoir vivre librement sur cet espace géographique que constituent Israël et la Palestine. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qu'on voit peut glacer le sang, en tout cas c'est le récit que font les gens qui ont pu aller ou dans les territoires occupés ou sur la bande de Gaza, et il faudrait que cela cesse aujourd'hui. On est quand même en 2017, de telles situations n'ont pas lieu d'être quand on est soi-disant un monde libre et évolué.
Sandra Rigol, nous allons évoquer d'autres sujets qui concernent notamment l'écologie. Vous êtes porte-parole d'un parti qui n'a plus de députés à l'Assemblée nationale, même si plusieurs députés portaient l'étiquette Europe Écologie Les Verts il y a encore quelques temps. Je pense par exemple au président de l'Assemblée, François de Rugy, qui faisait partie de votre parti politique. Il y a tout de même des sénateurs écologistes, des élus européens. Est-ce qu'il est possible de faire valoir ses idées quand on n'a plus de groupe parlementaire à l'Assemblée ?
Alors, pour tout vous dire, avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée, c'était une grande première, parce qu'on n'en a jamais eu chez les écologistes. Donc, je sais qu'on a tendance à croire que ce qui vient de se passer est la norme, mais en réalité, c'était juste une exception. En 2012... vous savez, les écologistes, on milite depuis très très longtemps pour que le vote de chaque Française et de chaque Français ait un sens. C'est-à-dire que quand on glisse un bulletin dans l'urne, il y a une réalité qui se traduise dans les actes. Or, en France, il n'y a que très peu de proportionnels, et notamment pas du tout sur ce type d'élection. Ce qui fait que quand vous votez pour des gens, ben, en fait, comme c'est uniquement la majorité qui gagne, votre vote est perdu.
Et s'il y a eu des députés écologistes, c'était grâce à un accord avec le Parti socialiste.
Un accord qui visait juste à mettre un peu de proportionnel là où il n'y en avait pas, c'est-à-dire de traduire nos résultats effectifs en nombre de voix, en nombre d'élus. Et pour vous dire la réalité, si on prend le nombre de voix que nous avions fait en 2012, s'il y avait eu la proportionnelle, nous aurions eu plus de députés à l'Assemblée nationale que ce que nous avons eu à travers notre accord. Mais s'il n'y avait pas eu d'accord, on en aurait eu très peu, comme nous en avions d'habitude, parce que le système français est ainsi fait qu'une seule personne peut gagner, et en général la personne est celle qui vient du parti le plus connu, ou en tout cas celui qui a fait le moins de désagréments, et ce n'est pas parce que c'est la personne qui a le moins d'ennemis que c'est pour autant celle dont le programme est le plus plébiscité. C'est un véritable problème dans le système politique français. C'est peut-être aussi ce qui fait qu'on a une abstention tellement grande. Ce n'est pas le cas dans tous les pays européens, notamment les pays limitrophes. Il serait peut-être temps qu'on avance dessus. Donc, il est tout à fait possible de faire de la politique sans avoir d'élu à l'Assemblée nationale, parce qu'on peut continuer à y relayer des lois, parce qu'on peut continuer à faire pression sur les députés qui y siègent. Et puis surtout, nous, on a beaucoup d'élus de terrain qui font énormément de choses. Vous en connaissez certains.
Évidemment, le maire de Grenoble, les élus à l'Assemblée, à la mairie de Paris, notamment
en
charge.
Ou encore Damien Carême, qui fait un travail extraordinaire pour accueillir dignement des personnes qui fuient la guerre.
Dans la ville de Grande-Synthe.
Tout à fait. Donc vous voyez, on peut faire de la politique et amener à l'agenda national des questions très importantes, même sans avoir des élus à l'Assemblée nationale.
Alors, entre nous, Sandra Rigol, est-ce que vos anciens amis politiques, qui siègent toujours à l'Assemblée nationale, mais avec l'étiquette En Marche, qui sont des anciens écologistes, est-ce qu'ils continuent de porter les questions d'environnement ? Est-ce que vous avez toujours un lien politique avec eux ?
Alors, il continue à porter des questions environnementales, oui, tout à fait, mais il y a d'autres partis qui en portent. En revanche, ce qu'il ne porte pas, c'est l'écologie politique. L'écologie politique, ce n'est pas uniquement des questions environnementalistes, ce n'est pas uniquement jouer sur les marges de ce que le système nous laisse pour arriver à abîmer un peu moins le monde. C'est une pensée systémique, c'est-à-dire que pour nous, chaque oppression sociale, chaque défaite sociale est une défaite environnementale et inversement. Chaque catastrophe environnementale est une catastrophe sociale. Or, quand vous pensez le monde à travers ce prisme-là, vous ne pouvez pas considérer que une société productiviste, une société capitaliste, où la seule image de la réussite se mesure au nombre de voitures que vous avez, ou au nombre d'avions, ou au nombre de yachts que vous avez cumulés, peut être une société dans laquelle le monde et l'humanité peuvent être protégés.
Mais certains ont reproché précisément aux écologistes d'avoir changé de sujet. Vous parlez d'écologie politique, mais certains estiment que vous auriez dû vous concentrer sur les sujets d'environnement et ne pas aller sur des thèmes sociétaux, sociaux.
Évidemment, ça arrange beaucoup plus que le monde continue à tourner avec des oppositions parfois factices, entre certaines personnalités de droite et certaines personnalités de gauche, comme les recompositions très libérales autour du mouvement En Marche le montrent aujourd'hui. C'est-à-dire que des gens qui s'opposaient depuis des années sur les territoires trouvent aujourd'hui un moyen de faire de la politique en commun à l'intérieur de leur propre parti.
C'est du carriérisme ?
Il y a peut-être pour certaines personnes du carriérisme, mais il y a aussi une réalité, c'est que leur idéal de monde de demain est un monde libéral dans lequel les meilleurs gagnent à la fin et les autres partent avec les déchets. Plusieurs déclarations d'Emmanuel Macron l'illustrent très bien quand il dit, par exemple, dans les gares, il y a ceux qui réussissent et puis il y a les autres qui restent sur le côté.
Durant la primaire de la gauche, François de Rugy, qui s'était engagé à soutenir le vainqueur de la gauche, était le candidat le plus à droite des candidats de gauche, ce qui a été un peu une surprise pour ceux qui pensaient qu'il incarnait l'écologie.
Alors,
peut-être pas pour vous, visiblement.
Non, c'était pas une surprise pour
nous. Il est cohérent donc avec ses idées.
Oui, il est plutôt cohérent avec ses idées. François de Rugy et les gens qui l'ont suivi d'abord à l'UDE, ensuite chez les écologistes et enfin chez En Marche, ceci sur une période de 2 ans. Vous voyez, il y a quand même beaucoup d'opportunisme dans cette façon de sauter d'un parti à un autre sur un laps de temps aussi court. La logique de ces personnes, qui est une logique politique comme une autre, c'est de considérer que l'écologie est une force de transformation à la une force d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a un système qu'il faut conserver tel qu'il est, et puis il faut trouver 2-3 moyens pour planter 3 arbres ici, et puis mettre 2 pistes cyclables là. Notre conception du monde, c'est pas celle-ci. C'est de dire que si on continue comme ça, et vous voyez qu'il y a 15 000 scientifiques qui viennent corroborer ce qu'on raconte aujourd'hui, que les associations environnementales
disent la même chose. Ça n'a pas été très médiatisé d'ailleurs, hein. C'est un peu les aléas de l'actualité. Mais
les
15 000 scientifiques, ça a fait la une du journal Le Monde.
Ouais.
On en a parlé un peu sur les chaînes info. Mais ces 15 000 scientifiques qui alertent sur les dangers de la planète, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui n'ont pas fait attention.
Chez les jeunes générations, ça a été beaucoup relayé parce que ça a été pas mal repris par les blogueurs les youtubeurs et les youtubeuses qui ont parlé de tout ça, pas mal de politiques qui relaient sur les médias sociaux aussi. Donc il y a eu une conscientisation. Globalement, la société prend conscience des dangers qu'il y a, mais il y a quelque chose d'assez générationnel au final, c'est-à-dire que les nouvelles générations ont conscience que leurs actes ont une action sur demain, soit qu'elles acceptent de faire attention, soit qu'elles n'aient pas envie de le faire, peu importe. Mais elles ont compris, en tout cas, que nos actes avaient une action sur le climat, sur la nature et donc aussi sur nos emplois, puisque tout ceci est lié. Alors que des générations plus anciennes, qui ont été élevées dans un monde dans lequel la productivité était l'axe commun et était censée proposer le bonheur pour toutes et tous, ont du mal à transiter sur cette idée. Après, ce n'est pas non plus complètement axé sur l'âge. Vous avez beaucoup de penseurs et de penseuses de l'écologie aujourd'hui qui sont issus des anciennes générations. Et à l'inverse, beaucoup de jeunes qui s'engagent dans des projets politiques qui réfutent totalement toute idée de changement climatique. Mais pour le dire grossièrement, il y a quand même cette idée qu'aujourd'hui, les jeunes générations sont beaucoup plus engagées. On le voit à travers des mouvements comme Alternatiba, par exemple, qui, lors de la COP21 à Paris, avait rassemblé 70 000 personnes, je crois, place de la République, non pas pour dénoncer seulement ce qui ne va pas, mais pour dire, voyez, les solutions existent. elle crée des emplois, elle crée du bonheur, elle crée de la vie pour demain, utilisons-les.
Donc ce que vous êtes en train de nous dire, Sandra Rigol, c'est que certes, vous n'avez pas le pouvoir aujourd'hui, vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, même si vous êtes présent dans les territoires, mais ça n'empêche pas de changer la politique. Chaque citoyen peut faire bouger les choses. Nous avons du pouvoir, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Chaque citoyenne, chaque citoyen a du pouvoir, oui, individuellement par les petits actes qu'on peut faire au quotidien, mais surtout collectivement. On a les moyens de faire pression sur notre maire, notre député, notre président, peu importe. En tout cas, le collectif est toujours beaucoup plus porteur. Après, vous savez, chez les écologistes, c'est aussi ce qui fait qu'on a parfois du mal à faire le lien avec la société, enfin avec la société, avec le vote en tout cas. On a une conception du pouvoir qui n'est pas celle qu'on a en France habituellement. Juste avant d'arriver, j'ai vu passer un article du Monde qui est sur le Parti Socialiste, qui montre une vieille photo de jeunes responsables politiques, des jeunes pousses, autour de leur leader qui était à l'époque Michel Rocard. Il y a une dizaine de personnes, ils ont tous réussi, ils sont tous reconnus.
J'allais vous en parler justement, puisque vous avez tweeté cette photo sur votre compte Twitter.
Alors pour la petite histoire, quand je l'ai découvert, c'était il y a peut-être un an de ça, j'avais déjà dénoncé le fait que seules les deux femmes de cette photo n'étaient pas connues.
On peut citer les noms des hommes qui sont sur la photo.
Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon,
Manuel Valls, Jean-Christophe Cambadélis, Pierre Moscovici, Jean Glavany, on les connaît tous.
Tous.
Et je dois avouer que je ne connais pas les deux femmes qui entourent Michel Rocard.
Alors, le Monde explique bien ça. Mais bien en avant, en fait, c'est sociologique, hein, vous pouvez inviter des sociologues pour évoquer ce fait, mais la politique française, la politique en général, mais je connais mieux le cas de la politique française, est un monde fait par les hommes et pour les hommes. C'est-à-dire que les compétences recherchées vont être celles qu'un homme a la capacité de développer dans l'espace social et pas celles d'une femme. Et la façon de rétribuer le travail militant, c'est-à-dire de valoriser votre investissement à l'intérieur du parti, va aller dans le sens qui est celui des hommes. C'est-à-dire que si vous êtes une femme, que vous avez des enfants, en général, vous avez, si ce n'est la charge de les élever, parce que ça peut être partagé, au moins la charge de les porter et de les accoucher, ça va vous priver pendant un temps donné de la disponibilité qui est nécessaire pour le monde politique. Je prends cet exemple parce qu'il est facile à comprendre, mais il y en a plein, plein d'autres. Et de fait, cette photo illustre très bien la réalité de la politique française, qui est qu'il n'y a pas ou peu de place pour les femmes, mais c'est valable aussi pour l'ensemble des minorités visibles, pour l'ensemble des minorités de genre, pour l'ensemble des minorités sexuelles, etc., etc. C'est un monde qui n'est fait que par et pour les mêmes typologies de personnes, avec parfois une exception qui confirme la règle. Mais le problème des exceptions qui confirment la règle, c'est qu'elles confirment une règle qui est bien trop établie.
Et vous faites le lien entre cette photographie et la conception du pouvoir par les écologistes.
Tout à fait, parce que vous noterez que chez nous, l'ensemble des responsabilités sont ou paritaires ou incarnées par des femmes. Si vous pensez à des femmes qui ont marqué l'histoire des... Enfin, si vous pensez à des responsables qui ont marqué l'histoire de l'écologie, il y a de fortes chances que vous pensiez en premier à Dominique Voynet ou à Cécile Duflot.
Dominique Voynet, Cécile Duflot, effectivement.
Et chez nous, les femmes sont des femmes qui assument le pouvoir, pas forcément comme le font tous leurs homologues masculins. On considère que le pouvoir n'est pas un dû, mais que c'est quelque chose qui se travaille en lien avec la société. Et que quand on est élu, on a un devoir par rapport aux citoyens qui nous ont élus. Donc on est leur porte-parole, qu'on est leur porte-voix, qu'on doit en tout cas traduire en politique les revendications qui sont celles de nos soutiens, des associations et des collectifs, ce qui n'est pas vraiment la conception de la politique française généralement.
On dit souvent que Europe Écologie Les Verts est traversée par de multiples courants. Comment on peut être porte-parole d'un parti politique aussi divers ?
Il faut être un peu masochiste. Non, non. En fait, la diversité, c'est une richesse. Alors, je ne voudrais pas ressembler à une vieille pub des années 80, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que ce que vous appelez des courants qui sont une mauvaise chose, moi, je dis que c'est ce qui fait que notre logiciel intellectuel se renouvelle en permanence et qu'on est obligé de sans arrêt avancer. Ce qui, encore une fois, n'est pas toujours le cas dans la politique française. Et effectivement, on a des fractures très profondes qui nous traversent, que l'on voit ressurgir quand un François de Rugy ou un Jean-Vincent Placé ou une Barbara Pompili quittent le parti parce qu'ils sont dans une logique d'accompagnement du système, là où l'essentiel du reste du parti est dans une logique de transformation et de rénovation et de révolution du système.
Pluriel, animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel. Nous sommes toujours en compagnie de Sandra Régol. Je rappelle que vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Alors, évidemment, une question qui vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'action menée par Nicolas Hulot, qui est sincère dans ses convictions, mais qui, pour l'instant, a beaucoup de mal à faire passer ses idées. Et d'ailleurs, il s'est donné un an pour réussir.
Vous avez fait un petit peu la question et la réponse. Nicolas Hulot, c'est dans la tête d'une majorité de Françaises et de Français le porte-parole des questions environnementales et écolo en général. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un porte-parole des questions environnementales et on a vu que son travail avec la fondation qui s'appelait à l'époque Nicolas Hulot, qui s'appelle Pour la nature et l'homme depuis, a de plus en plus pris en compte les questions sociales sans que personne ne lui dise « mais enfin, ce n'est pas le travail de la Fondation que de prendre les questions sociales ». Preuve que l'écologie, c'est une question systémique. Bon, petite parenthèse fermée. Le travail de Nicolas Hulot, il est restreint et empêché par un gouvernement qui n'a rien d'écolo, qui n'a aucune volonté écologiste. On le voit très bien avec ses combats fréquents avec le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, qui va toujours à l'encontre des décisions prises par le ministre, qui pourtant est son supérieur dans les grades ministériels.
Mais vous pensez qu'il s'est fait piéger ?
Alors, je ne sais pas s'il s'est fait piéger. Il y a la volonté chez Nicolas Hulot, qui est resté longtemps en dehors des jeux politiques, d'utiliser cet outil. On lui a quand même donné un outil en or, c'est-à-dire que c'est un ministre les plus importants du gouvernement sur le papier. De se dire, là où je suis, je peux faire avancer les choses. Et de fait, il l'a fait. Sa loi sur les hydrocarbures est certes quasi uniquement symbolique, mais elle permet d'enfoncer un premier clou dans la logique du tout voiture et du tout pétrole dont on connaît les répercussions économiques et géopolitiques à travers le monde. Donc c'est quand même quelque chose qui est une réelle avancée. Cependant, on voit bien qu'à chaque fois qu'il obtient des avancées, on ne lui donne pas ni les moyens économiques, ni l'agenda pour le mettre en place. Et donc, il a toutes les idées, toutes les valeurs, il a tous les outils en théorie, mais quand on a tout un gouvernement qui refuse d'aller dans le même sens, ça coince. Et il y a un très bon exemple de ça, c'est le glyphosate. C'est-à-dire que Nicolas Hulot travaille le gouvernement pour dire « il faut que cette sortie soit la plus rapide possible, on a les outils, on a les moyens, ok, je ne vais pas demander la sortie immédiate, mais 3 ans, c'est gérable, voyez, je vous le prouve ». Ce petit combat dure un petit moment, ça fait des petits buzz, des petits clashs qu'on retrouve dans les journaux entre lui et le ministre de l'Agriculture, entre lui et le Premier ministre, etc. Et au final, il remporte le match. Il le remporte en France. Sauf que c'est un peu tard pour le défendre au niveau européen, puisque ça fait des mois que la France tergiverse. Or, qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve avec une reconduction.
La France a une responsabilité dans son échec au niveau européen sur la question du glyphosate.
On a toujours une responsabilité dans nos échecs, quels qu'ils soient. Là, en l'occurrence, ils ont, en tout cas Nicolas Hulot, a essayé de travailler et d'œuvrer à une réussite de bout en bout. Il n'est pas du tout attaquable sur cette question-là. Et à la fin, même le président valide ses arbitrages et remet à sa place le ministre Travert. Donc on ne peut pas dire que c'est une responsabilité totale. Mais si le gouvernement avait fait le travail de fond, peut-être, avec des si, vous savez, on remet Paris en bouteille, peut-être qu'on aurait pu gagner. Alors, on dit toujours, il n'y a que 9 pays qui ont voté pour la sortie la plus rapide du glyphosate au niveau européen. C'est oublier qu'en fait, les arbitrages au niveau européen se font aussi au nombre d'habitants par pays et que on a perdu, on va dire, nous, les Français, dans ce qu'on défendait à très, très peu au niveau du nombre de personnes. Ce qui a fait basculer, c'est notamment l'Allemagne qui fait un vote qui, apparemment, d'après les échos qu'on a, était contraire à ce que Merkel avait décidé.
Mais j'ai peut-être une question naïve, mais est-ce que la France, sur les questions d'environnement, ne peut pas se passer de l'autorisation de l'Union européenne ?
Alors, en l'occurrence, c'est ce qu'a annoncé immédiatement la secrétaire d'État Poirson, en disant, mandaté par le président, en disant que quel que soit le résultat au niveau européen, ce qui veut dire qu'ils avaient déjà au niveau gouvernemental quelques infos qui leur disaient qu'ils n'allaient pas gagner, quel que soit le résultat, le glyphosate serait interdit en France à moins de 5 ans. Et le président a renchéri dessus en disant que ce serait à échelle 3 ans. Donc en France, le glyphosate va être interdit, ce qui est très bien. Après, il y a quand même une question, c'est que pendant qu'on gagnait la bataille du glyphosate, les fabricants, les grosses firmes, comme l'énorme consortium Monsanto-Bayer, ont déjà lancé des nouveaux produits qui sont encore plus dangereux que le glyphosate, qui s'appellent le Transform et le Closer, et qu'on interdit un produit qui est extrêmement dangereux. Mais on a de nouveaux produits qui, potentiellement, on n'a pas encore les études d'impact, qui viennent juste d'être mis sur le marché, peuvent être encore plus dangereux. C'est pour ça que nous, les écologistes, ce qu'on demande depuis longtemps, c'est d'inscrire la protection de l'environnement dans la Constitution pour que les entreprises ne puissent plus jouer avec nos vies et notre santé. Vous avez plusieurs plaignants contre ces produits. Vous savez, c'est le glyphosate, c'est le Roundup, notamment en France. Un produit très peu cher et que beaucoup de gens ont utilisé, notamment des femmes enceintes qui ont accouché d'enfants avec des pathologies extrêmement graves et qui ne pourront jamais avoir une vie normale, ni respirer par eux-mêmes, ni pouvoir grandir par eux-mêmes. C'est quelque chose de catastrophique quand on voit ce qu'une seule pulvérisation de ce produit peut faire à un fœtus de femme enceinte.
On se demande pourquoi, finalement, c'est si difficile de faire interdire des produits qui nous exposent tous potentiellement. Vous évoquez la possibilité d'inscrire l'interdiction de ce type de produit dans la Constitution. Est-ce que, rétrospectivement, tous les ministres de l'Agriculture qui ont validé ces produits ne sont pas passibles d'une action collective? On se souvient notamment du scandale du sang contaminé. Ça paraît incroyable. Je me souviens que Benoît Hamon voulait interdire les perturbateurs endocriniens. Normalement, ça ne devrait même pas être un sujet d'une élection présidentielle.
Alors, il existe plusieurs tribunaux associatifs et citoyens qui ont été faits. On a entendu parler l'an dernier du tribunal Monsanto, notamment. Il y a des associations de juristes de l'environnement qui se coalisent à travers le monde pour mener des actions contre les États et qui gagnent, puisque effectivement, vous avez tout à fait raison. Quand un État laisse passer des produits qui tuent la population est en droit de condamner les responsables politiques qui ont laissé ces meurtres par inadvertance, on va dire, se perpétrer. Donc ça, c'est une réalité. Et nous, ce qu'on demande, c'est pas l'inscription de l'interdiction de ces produits dans la Constitution, mais c'est la prise en compte de l'impact environnemental pour qu'aucun produit d'aucune sorte, enfin d'aucun de ce type puisse être développé à l'avenir, puisse être vendu dans le monde. Ce qu'on demande aussi, c'est que les multinationales soient responsables de leur filière. Parce qu'il est très facile aujourd'hui, comme on joue avec les placements financiers en les mettant dans les paradis fiscaux, de jouer avec des législations beaucoup plus souples sur la pollution et l'environnement, et de développer des produits extrêmement dangereux dans d'autres pays pour pouvoir mieux les vendre ici. Or, vous imaginez bien que des produits aussi dangereux ont des process de fabrication qui le sont tout autant, et que l'impact sur les personnes qui travaillent dans ces usines est très important.
Alors, on a parlé du glyphosate, il y a aussi l'électricité nucléaire. Nicolas Hulot a annoncé un recul. Normalement, il était prévu de réduire la part du nucléaire de 75% à 50% à l'horizon 2025. Nicolas Hulot a dit que c'était difficile de respecter ces délais. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas reculer pour finalement respecter cette échéance plutôt que d'annoncer des chiffres qui ne sont pas atteignables?
Alors, sur le cas du nucléaire, je vous invite à reprendre toutes les déclarations de Nicolas Hulot avant le gouvernement. Déclarations étayées par des études économiques, des études scientifiques, sur la capacité à sortir du nucléaire et à développer les énergies renouvelables. Et vous verrez combien Nicolas Hulot est le plus violent pourfendeur, le Nicolas Hulot associatif est le plus violent pourfendeur des propos du Nicolas Hulot ministre coincé dans un gouvernement qui ne lui laisse pas dire autre chose que ça. La réalité, c'est que le rapport sur lequel il s'appuie, le rapport RTE qui est la société d'EDF qui distribue l'énergie, dit pour la se rallie pour la première fois au scénario négawatt. Vous savez, c'est des scénarios qui, tous les ans, se mettent à jour pour expliquer scientifiquement, économiquement, avec toutes les projections nécessaires, comment est-ce qu'on fait pour sortir du tout nucléaire. Et il se rallie dessus en 10 ans, donc on parle quand même d'une filiale d'EDF, pas le plus gros fan de la sortie du nucléaire. Et donc ils expliquent pour la première fois que l'immense nécessité, c'est de réduire la consommation en électricité et qu'à partir de là, oui, on aura la possibilité de développer les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'ADEME, qui est une agence d'État chargée justement d'énergie et de développement durable. Elle explique qu'avec ça, on pourrait créer 900 000 emplois, quasi 1 million d'emplois, juste si on
dans
sort
du dans l'énergie renouvelable.
On peut créer des milliers d'emplois. On va aussi en supprimer. C'est-à-dire que les emplois dans les centrales, c'est des emplois qui ne devraient plus exister demain. Pour ça, nous, on porte un projet de transition écologique qui comprend un volet de transition énergétique. On ne va pas continuer à promettre à des gens dont le métier est devenu dangereux. Moi, je pense notamment à la centrale de Fessenheim qui devrait être fermée depuis des dizaines d'années.
La plus vieille centrale de France.
La plus vieille centrale de France est surtout une centrale dont, quand vous habitez en Alsace, j'y ai vécu longtemps, vous entendez parler des fuites à longueur de temps. C'est-à-dire que, je vais peut-être un peu exagérer, mais il ne se passe pas une semaine ou peut-être un mois sans qu'il y ait une nouvelle fuite qui soit constatée sur place. On vit en Alsace à côté d'une bombe nucléaire à retardement et tout le monde trouve ça normal. Elle est à la même hauteur de l'eau, même peut-être un peu en dessous, de la centrale de Fukushima qui n'a pas explosé à cause du séisme, mais à cause de l'eau qui s'est déversée dessus. Donc vous voyez, on développe un jeu tout aussi dangereux que celui qu'on évoquait tout à l'heure autour du glyphosate et des perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire qu'on met en place des politiques qui sont susceptibles de annihiler toute vie sur la terre qui entoure ces lieux pendant plusieurs centaines d'années, qui peut condamner aussi la vie des gens qui travaillent dans le lieu, mais qui pourrait condamner aussi la vie de tous les gens qui sont autour.
On
et
a
ça,
véritablement...
on nous dit que c'est normal de le continuer, qu'il n'y a aucun souci.
On a véritablement un Fukushima en puissance, un Tchernobyl en puissance en France, dans cette région d'Alsace.
Oui, c'est d'ailleurs pour ça que les Allemands sont extrêmement mobilisés autour de cette centrale qui est construite au bord de l'eau, sur une zone totalement inondable. Et s'il y a une montée des eaux, cette centrale peut complètement périr, comme l'a fait celle de Fukushima. Vous vous souvenez de tout ce qui a entouré ensuite Fukushima? On parle d'un pays qui est extrêmement développé, le Japon, qui a des moyens de lutter contre les séismes et contre les tsunamis que la France ne connaît pas, puisqu'elle n'est pas confrontée à ça. Il y a un développement technologique qui est incroyable au Japon. Et malgré ce, ils n'ont pas réussi, même avec l'aide internationale, à faire face à ce qui s'est passé. C'est une région morte, la région de Fukushima. Tous les océans autour, tous les planctons, donc tous les poissons, donc toute la vie autour a été polluée. Et on nous dit que Fessenheim, ce n'est pas un problème. Je ne sais pas comment le dire, mais votre exemple de tout à l'heure était très juste. Oui, il y a des responsables politiques qui ont fait des choix, qui sont des choix suicidaires pour le pays, des choix suicidaires économiques, mais qui mettent aussi directement en jeu la vie des habitants de ce pays et même des pays voisins.
Je vais vous ramener à la politique peut-être à un niveau plus petit. On a appris que l'élection de Manuel Valls à Évry a été validée, le député Manuel Valls. Comment vous accueillez cette décision du Conseil constitutionnel? Et plus globalement, qu'est-ce que vous pensez de son retour médiatique et de ses déclarations sur la laïcité, l'islam, le communautarisme, Edoui Plenel? Est-ce que ça favorise le vivre ensemble ou au contraire, est-ce que ça divise la société?
Moi, je suis très très inquiète par le porte-voix offert, le tapis rouge médiatique offert à Manuel Valls. Je ne comprends pas comment est-ce qu'un simple député peut avoir accès à autant de médias, de grande écoute, pour diffuser un message de haine permanent, avec des propos qu'on avait certes entendus au Front National, mais qu'on ne s'attendait certainement pas à voir portés par quelqu'un qui se dit un homme de gauche. La gauche, elle a quand même des valeurs anciennes de respect, de partage, d'écoute, que n'incarne absolument pas Manuel Valls. Alors que
il affirme vouloir distinguer l'islam de l'islamisme. Vous ne le croyez pas ?
Mais vous savez, quand on commence à expliquer qu'il y a des bons, en l'occurrence musulmans, et qu'il y a des mauvais, en l'occurrence musulmans, c'est jamais la bonne pente, c'est jamais la bonne dynamique, parce qu'à travers l'histoire, sans faire un retour forcément à la Seconde Guerre mondiale, mais globalement, à travers le monde, à chaque fois que des dirigeants politiques ont voulu distinguer les bons et les mauvais, et donc vouloir jeter les mauvais en dehors du pays, ça n'a jamais été une pente démocratique ni une dynamique pour vivre ensemble. Ce que développe Manuel Valls, c'est extrêmement dangereux, extrêmement inquiétant, dans un pays qui ne va pas toujours très bien économiquement, pour le dire diplomatiquement. Et attiser les haines comme ça, c'est un super fond politique. D'ailleurs, il est un peu laissé libre par l'absence de Marine Le Pen, qui connaît quelques soucis dans sa famille politique. Donc il s'engouffre en bon tacticien qui a besoin de faire des voix et de se refaire. Il s'engouffre dans la partie la plus haineuse, comme le fait Wauquiez en Rhône-Alpes, qui est d'ailleurs fréquemment félicité par le FN. Et on en arrive à une absence totale de logique par rapport à sa famille politique et les valeurs qu'il est censé porter, de la part de quelqu'un qui, par ailleurs, est un immigré, donc qui est censé comprendre peut-être mieux que les Français dits de souche ce que ça veut dire, la culture française dans toute sa diversité. Et cet homme-là, au contraire, utilise son histoire comme un justificatif pour dire qui est le bon et qui n'est pas le bon. Et ça, c'est vraiment inquiétant dans un pays qui n'a absolument pas besoin de ça. Alors que d'autres pays, comme les États-Unis, attisent les haines entre les communautés, attisent les haines entre les personnes. Moi, quand des gens me font des discours comme ceux de Manuel Valls, j'ai l'habitude d'expliquer...
Vous dites que des pays comme les États-Unis attisent les haines, vous pensez à Donald Trump, pas au pays, les États-Unis, globalement.
Un peu des deux. Il y a Donald Trump et puis il y a globalement la passivité politique sur les affaires de violence policière à l'encontre des populations noires à travers le pays. Et cette permissivité-là choque, parce qu'on est loin, mais est une réalité aux États-Unis. L'élection de Donald Trump s'est fait aussi sur l'idée, c'est fait sur la construction d'une culture politique qui dit aux blancs américains qui n'ont pas de travail et qui souffrent de pauvreté, vous serez moins pauvres et vous aurez plus de travail si vous vous débarrassez de ces autres pauvres qui sont noirs, arabes, peu importe.
La France est menacée par un risque d'avoir un Trump à la française ?
Je ne sais pas si on a un risque d'avoir un Trump, mais ce qui est sûr, c'est que cette idéologie-là, qui vise à diviser les pauvres et à les opposer entre eux, elle est en train de monter. Et le gouvernement a lui-même une grosse responsabilité dessus. Je n'ai toujours pas entendu Emmanuel Macron dénoncer les propos de ce député qui fait partie de sa majorité. Je n'ai pas entendu le Premier ministre s'ériger contre ces propos qui sont à l'encontre de la loi sur la laïcité. Je n'ai entendu personne dans cette majorité condamner véritablement les propos de Manuel Valls. S'il ne condamne pas, c'est donc que quelque part, il laisse la possibilité de développer dans la majorité En Marche des propos discriminatoires. Et ça, c'est très grave.
Vous estimez que Manuel Valls ne respecte pas la loi de 1905 sur la laïcité ?
Je dis même qu'il la déforme. La loi de 1905, c'est une loi pour vivre ensemble dans le respect des cultes, des cultures et des religions de chacun et chacune. Ce que la loi de 1905 demande, c'est qu'au sein des administrations, les religions ne soient pas des outils de division ou qu'elles ne soient pas apparentes. C'est ça la loi de 1905, c'est le respect de chaque croyance. Ce que raconte Manuel Valls sur la loi de 1905, c'est ce que racontent les gens qui ont besoin d'outils pour tourner les communautés les unes contre les autres, c'est de dire que la religion n'est pas bienvenue en France et que laïcité veut dire agnostisme ou rejet des religions en général. Ce n'est pas l'esprit des pères fondateurs de cette loi. Donc c'est très dangereux de la déformer ainsi. J'incite tous vos auditeurs et toutes vos auditrices à la relire par ailleurs. C'est une très très belle loi. Et par ailleurs, ce qu'il y a de très intéressant aussi, c'est qu'on parle beaucoup de communautarisme dans notre pays, mais ça stigmatise toujours les pauvres, toujours les minorités. Et pourtant, il y a une communauté qui domine et les systèmes économiques et les systèmes politiques en France, qui jouit d'une énorme cohésion qui permet, par exemple, d'avoir une omerta terrible sur les violences sexuelles faites aux femmes, et qui est la communauté, alors il y a certains sociologues qui appellent ça les ghettos du Gotha, d'autres qui appellent ça le communautarisme des dominants, Mais cette communauté-là nous fait croire à nous, le reste de la population, que le communautarisme, c'est toujours celui des autres, qu'on devrait s'opposer entre nous, et ça permet de garder un système qui, économiquement, va toujours du côté de leur côté.
La France d'en haut.
C'est pas forcément... Enfin, on peut l'appeler la France d'en haut. J'aime pas trop cette expression parce qu'elle oublie l'essentiel. Elle oublie que la photo dont on parlait tout à l'heure, elle est très représentative de ce communautarisme-là qui représente plutôt des hommes blancs de plus de 50 ans, hétéros, de culture catholique, pas forcément pratiquants par ailleurs, et qui a une solidarité qui s'est construite à travers les parcours universitaires ou scolaires, à travers les parcours familiaux, à travers... Vous voyez ? Donc il y a cette solidarité-là qui est très grande. Je ne dis pas que c'est un pire communautarisme, je dis que celui-ci, on ne le voit pas. Et il se traduit notamment de façon très simple. Essayez d'aller dans un restaurant très chic à Paris et vous verrez qu'à peine vous aurez avancé un pas, on vous expliquera que vous n'avez rien à faire là, même si vous êtes très bien habillé, même si vous êtes mis sur votre 31. Il y a des communautés qui sont vraiment communautaristes et ne se laissent pas accéder par le reste de la population. Or, il faudrait qu'on arrête de croire que nos communautés religieuses, que nos collectifs s'opposent quand il y a un seul collectif qui, depuis le début de l'histoire du capitalisme, fait en sorte que le reste de la population s'oppose pour mieux détruire à la fois la planète et exploiter les hommes et les femmes qui la font tourner.
Merci Sandra Régol. Je rappelle que vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.